There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
Le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, a le plaisir de vous inviter à un symposium sur les projets de recherche SCAPE, pédagogie plurilingue et technologie numérique, pour soutenir l'apprentissage des STEAM, les 25 et 26 avril 2023 à Toronto. Ce symposium de deux jours vise à mettre en lumière la recherche appliquée relative à la pédagogie AMI, des langues et aux technologies numériques dans les classes et les écoles élémentaires et secondaires. L'équipe de recherche des projets SCAPE a collaboré avec des enseignants, des élèves, des décideurs, des formateurs d'enseignants et des chercheurs internationaux afin de donner aux élèves multilingues nouvellement arrivés l'occasion de s'épanouir dans leur classe de STEAM et à l'école de manière plus générale tout en se rapprochant de leur famille. Soyez nombreux à participer à ce symposium, cette conférence, pour découvrir quels sont les avantages d'une pédagogie amie des langues et les ressources à votre disposition pour devenir un éducateur sensible à la culture. Le CREFO vous y attend le mardi 25 avril de 10h à 15h30. Et tout se déroulera en français avec interprétation simultanée en anglais. Et le mercredi 26 avril de 10h à 15h30, interprétation en anglais, et oui, simultanée en français. Vous pouvez participer soit en présentiel au Nexus Lounge, 12e étage de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, 252 rue Bloor Ouest, métro St. George, ou en ligne, comme vous le voulez, sur Zoom. Vous y retrouverez le lien sur notre site web popourrichaud.com. Mardi 25 avril de 10h à 15h30 et mercredi 26 avril de 10h à 15h30, symposium sur les projets de recherche SCAPE. Pédagogie plurilingue, technologie numérique pour soutenir l'apprentissage des STEAM, pour découvrir quels sont les avantages d'une pédagogie amie des langues et les ressources à votre disposition pour devenir un éducateur sensible à la culture. C'était un message du CREFO, Université de Toronto, partenaire de Popourri Show.
Pour Pâques, laissez-vous séduire par Lindor. Créé par les maîtres chocolatiers Lindt. Avec son cœur passionnément fondant. Fondé de bonheur avec Lindor par les maîtres chocolatiers Lindt.
Dimanche 9 avril 2023. Joyeuse fête de Pâques. Sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Eh oui, CUT FM et Popourri Show, votre magazine de la francophonie, l'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader, qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Pour écouter nos émissions, popourrichaud.com. Et au menu en ce dimanche de Pâques, une émission pleine de surprises. Eh oui, comment se porte la langue française en Ontario et ailleurs? Une campagne de publicité pour freiner le déclin du français au Québec suscite controverses et polémiques. Escale à la foire du livre à Bruxelles et entretien avec Rodney Saint-Éloi, fondateur de la maison Mémoire d'Encrier, Montréal, maison qui célèbre ses 20 ans cette année. Le mot de la semaine avec la chronique de Linda Giguère, l'humeur de Linda sur TV5 Monde. Les jeunes transgenres, mais quel avenir? On en parle. Et oui, les élèves constamment menacés dans nos écoles. Beaucoup ne sont pas prêts à ce changement de société gigantesque qui renie la biologie. Et oui, et que font nos écoles pour contrer les attaques contre les étudiants transgenres? La finale torontoise 2023 de ma thèse en 180 secondes organisée par l'ACFAS à Toronto continue à susciter beaucoup d'intérêt chez les auditeurs. Et si on a le temps, nous reprendrons les présentations de deux de nos invités de l'émission spéciale de la francophonie le 19 mars dernier. Et oui, ils étaient aussi parmi les finalistes et déclarés gagnantes depuis. Mais comme cadeau de Pâques, place au grand musicien malien Toumani Diabaté qui interprète avec son groupe le Symmetric Orchestra le titre Toumani, le tout enregistré par RFI Musique. Et nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui nous appuient dans cette aventure des francophonies depuis plus de 35 ans. Et je vous rappelle l'invitation des Français du monde à l'État Toronto, qui souligne le 106e anniversaire de la bataille de Vimy. Dimanche prochain, 16 avril, à 10h, au 55, au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville à Toronto. Maître Queen, plusieurs dignitaires et corps diplomatiques seront présents. La bataille de la crête de Vimy, qui s'est déroulée dans le nord de la France, est considérée comme un fait marquant de l'histoire canadienne. Beaucoup de soldats canadiens étaient de jeunes hommes, à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, unis dans leur lutte pour la justice, la paix et la liberté. De plus, certaines techniques de combat innovatrices mises en pratique à la crête de Vimy allaient contribuer à la victoire finale des Alliés un an et demi plus tard. La victoire de Vimy fit un événement fondateur pour le Canada. Après 4 jours de combats sanglants, les Canadiens s'étaient rendus maîtres de la crête de Vimy au prix de 10 600 tués et blessés. La bataille est devenue depuis un symbole important pour le Canada. On vous y attend dimanche prochain, 16 avril, à 10h, au 55, Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville à Toronto, Metro Queen. Tous les détails sur notre site popourishow.com. Aussi, un autre événement important à ne pas manquer, madame, monsieur, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, vous invite à un symposium sur les projets de recherche SCAPE, les 25 et 26 avril prochains. Ce symposium de 2 jours vise à mettre en lumière la recherche appliquée relative à la pédagogie amie des langues et aux technologies numériques dans les classes et les écoles élémentaires et secondaires. Plusieurs experts feront partie du groupe des conférenciers, notamment Emmanuel Pichon Wortmann, qui est professeur adjointe au département du Curriculum Teaching and Learning à l'Université de Toronto, OISI, et directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne. Antoinette Gagné, professeur associé à OISI. Jim Cummins, Université de Toronto, conférencier principal. Professeur Nathalie Auger, Université Paul-Valéry, Montpellier 3. Professeur Jérémy Sauvage, Université Paul-Valéry, Montpellier 3. Professeur Carole Fleuret, Université d'Ottawa. Retrouvez tous les détails sur notre site ou le site du CREFO. Et pour tout de suite, place au magazine L'Accent des Autres. Et juste après, la chronique de Linda Giguère, l'humeur de Ginda, de Linda, sur TV5 Monde. Popourri Show, nos meilleurs vœux de joyeuses Pâques. Paix au monde.
Voici votre rendez-vous avec les médias francophones publics. Ce sont donc les grandes lignes de l'actualité de cette semaine écoulée avec la radio-télévision suisse, avec RFI, avec également Radio-Canada, France Bleu et la RTBF. Et tout d'abord la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme cette semaine à Strasbourg, faute de lutter suffisamment contre le réchauffement climatique, Pierre Anchoffa.
Une audience historique pour l'association de retraités qui se bat depuis 2016. C'est notre santé que la Suisse met en péril. Procès d'intention, réplique la Confédération.
Le réchauffement climatique, on en reparle aussi au Canada parce qu'il menace un important fleuron québécois, Mélanie Hood, c'est le sirop d'érable.
Un produit convoité qui pourrait être en péril si les érables ne s'adaptent pas au changement climatique.
Sur le continent africain, et après 3 ans de détention au Rwanda, l'opposant Paul Rousseff-Sabagina est finalement rentré aux États-Unis où il réside, Nicolas Sûr.
Oui, cet homme dont Hollywood a fait un héros pour son rôle durant le génocide avait été arrêté, kidnappé par les services rwandais selon ses proches, dans des circonstances particulièrement troubles pendant un voyage.
Nous reviendrons aussi sur cette manifestation en France. C'était le week-end dernier à Sainte-Soline, au sud de Poitiers. Manifestation contre les méga-bassines, de violents affrontements avec les forces de l'ordre et des blessés graves parfois. Nous y reviendrons avec Éric Valmire et un reportage sur place. Enfin, en Belgique, le début de l'entraînement du futur astronaute belge, Raphaël Liégeois, c'est la semaine prochaine. Il marche dans les pas de Frank De Wijn et Dirk Frimut, ses prédécesseurs dans l'espace, Jacques Remers.
Oui, cela se passera à Cologne, dans le centre de formation de l'Agence spatiale européenne. Une année de formation après une semaine de promotion et de transmission, notamment auprès des jeunes.
Voilà pour le sommaire. Bienvenue à vous dans l'Accent des Autres. Et avant de développer ces titres, un bref retour sur la reprise de Crédit Suisse par UBS. On vous en parle depuis deux semaines. Pierre-Anne, il y a déjà un changement à la tête du nouveau géant bancaire.
Pour gérer cette fusion de tous les superlatifs, le conseil d'administration d'UBS est allé rechercher son ancien patron, Sergio Ermotti, qui avait quitté la banque en 2020. Le néerlandais Ralph Hamer cède donc sa place. Sergio Ermotti a l'avantage d'avoir recentré avec succès l'ancienne UBS sur la gestion de fortune au détriment de la banque d'investissement, ce qui attend précisément les affaires reprises de Crédit Suisse. Et puis, son ancrage en Suisse et sa connaissance du monde politique sont clairement un atout pour la banque, alors que les appels à la régulation se multiplient.
La Confédération helvétique, on va y rester avec cette affirmation, la Suisse néglige la lutte contre le réchauffement climatique et met nos vies en danger. C'est en tout cas l'avis de l'Association des aînés pour la protection du climat. Et Pierre-Anne, c'est donc devant la Cour européenne des droits de l'homme que ces femmes tentent de faire condamner leur pays.
L'audience a eu lieu mercredi à Strasbourg devant une salle comble, 400 personnes dont bon nombre de ces femmes de plus de 65 ans. L'association compte 2000 membres pour une moyenne d'âge de 73 ans. Déboutées jusqu'à la plus haute cour helvétique, ces femmes ont décidé d'aller jusqu'à Strasbourg et ont répondu crânement aux questions des 17 juges. Oui, les grandes chaleurs ont un impact sévère sur notre santé. La canicule tue, dira même leur avocate. Non, la Suisse n'a aucune excuse. Oui, la Confédération a failli dans ses objectifs climatiques.
Alors que répond l'accusé ?
Le représentant du gouvernement suisse, l'avocat Alain Chablais, a défendu que les droits humains des requérantes n'ont pas été violés.
L'audience de ce jour n'était pas destinée à discuter de la politique climatique de la Suisse, mais du statut de victime et de savoir si les aînés pour le climat sont suffisamment touchés dans leur droit à la vie. Et nous estimons que ça n'était pas le cas.
Pas le cas, car elles ne seraient pas plus touchées que d'autres personnes à risque, comme les hommes âgés ou les femmes enceintes. C'est maintenant à la Cour de trancher. Une décision est attendue pour la fin de l'année. La condamnation d'un pays pour inaction contre le changement climatique serait une première et pourrait faire jurisprudence pour les membres du Conseil de l'Europe.
Et on notera que le même jour, les juges de Strasbourg se sont aussi penchés sur le recours de l'ancien maire de Grande-Synthe en France pour les mêmes reproches d'inaction du gouvernement. Grande-Synthe, la ville côtière, est menacée par la montée des eaux. Et à propos de réchauffement climatique encore, la menace plane aussi sur l'avenir du sirop d'érable au Canada. Le Canada où c'est pour l'instant ce qu'on appelle le temps des sucres, cette période de récolte de l'eau d'érable et de sa transformation. Mélanie, quelles sont les inquiétudes ?
En croisant des données de Statistique Canada et Ressources naturelles Canada, on voit que la zone propice à la croissance de l'érable pourrait se déplacer vers le nord au cours des 50 prochaines années en raison des changements climatiques. Certaines régions où se concentrent les érablières se retrouveraient donc à découvert. C'est ce qu'explique le professeur en écologie forestière à l'Université du Québec à Chicoutimi, Sergio Rossi.
L'érable risque de n'être plus synchronisé avec son environnement. Les arbres se déplacent beaucoup plus lentement que la couche climatique.
Les températures plus chaudes menacent également la coulée, c'est-à-dire la période pendant laquelle la sève d'érable s'écoule de l'entaille.
Alors, quelles sont les conditions idéales pour recueillir l'eau d'érable?
Les nuits froides sont essentielles à la production acéricole. Il faut avoir un gel pendant la nuit et un dégel le jour, donc des températures au-dessus de zéro. D'ailleurs, de nombreux producteurs devancent déjà leur récolte pour s'adapter au printemps hâtif. C'est le cas de Régent Deshaies.
Dans le temps de mes parents, eux autres, s'ils entaillaient au mois de mars, ils entaillaient tard. Mais là, c'est tard, avec le réchauffement climatique, tout ça, il faut vraiment commencer de bonne heure. Après les fêtes, il faut vraiment commencer à aller dans le bois, commencer à entailler, à préparer les équipements.
Le Canada est le premier producteur de sirop d'érable. Il représente environ 75 % de la production mondiale. À lui seul, le Québec produit plus de 90 % du sirop d'érable canadien.
Mélanie Houd pour Radio-Canada.
L'accent des autres.
Il avait été arrêté il y a 3 ans dans des circonstances rocambolesques. L'opposant rwandais Paul Rusesabagina a été libéré à Kigali cette semaine. Il a pu rentrer ce jeudi aux États-Unis où il résidait. Paul Rusesabagina avait accédé il y a quelques années à une renommée mondiale grâce à Hollywood, Nicolas.
Oui, pendant des années, Rusesabagina a été considéré comme un juste du Rwanda. Pendant le génocide de 1994, il était le directeur de l'hôtel des Mille Collines à Kigali, où des milliers de Tutsis avaient trouvé refuge et pu échapper au massacre. En 2004, Hollywood s'empare de cette histoire avec le film Hôtel Rwanda. Fort de sa notoriété, Rusesabagina dénonce l'autoritarisme du régime rwandais. Ses ennuis commencent, son rôle pendant le génocide est remis en cause, il part en exil en Belgique, puis aux États-Unis.
Oui, et il avait été arrêté il y a près de 3 ans alors qu'il était en voyage.
Oui, à Kigali, à la descente d'un petit avion dans lequel il avait embarqué et qu'il pensait apparemment à destination du Burundi. Quelques mois plus tard, son procès commence. Il est accusé d'être lié à des attaques meurtrières revendiquées par un groupe armé lié à la formation politique que Rusesabagina a contribué à créer. Il nie toute implication, mais écope de 25 ans de prison. Ses proches et les organisations internationales des droits de l'homme dénoncent une parodie de justice. Washington proteste. Vendredi dernier, Paul Kagame accorde sa grâce à Rusesabagina. Le même jour, le gouvernement rwandais rend public une lettre dans laquelle l'opposant assure qu'il se tiendra désormais éloigné de la vie politique rwandaise et qu'il passera le reste de ses jours aux États-Unis à réfléchir tranquillement. Fin de citation.
La mobilisation à présent contre ce qu'on appelle les méga-bassines en France, et notamment dans les Deux-Sèvres, où 16 de ces bassines, ces énormes retenues d'eau, doivent être construites. Il s'agit en fait de stocker l'eau pour l'irrigation des cultures en été, grâce au pompage des nappes phréatiques superficielles en hiver. Alors ces détracteurs dénoncent un accaparement de l'eau destiné à l'agro-industrie, d'autant que ces bassines sont construites avec le soutien de l'État. Une manifestation s'est tenue le week-end dernier à Sainte-Soline, c'est au sud de Poitiers, où l'une de ces bassines est en construction. Des milliers de personnes se sont réunies, il y a eu de nombreux blessés parmi les manifestants et dans les rangs des gendarmes. Eric, les affrontements ont été violents.
La violence et les blessés, les manifestants n'en voulaient pas, en tout cas pas tous. Des militants radicaux qui étaient sur site aussi et les charges de la police ont totalement éclipsé le fond du débat sur l'eau et sa gestion en période de sécheresse pour les agriculteurs. Une question se pose désormais pour les opposants au projet, quelle mobilisation? Une question qui n'affecte en rien leur détermination. Noémie Guillotin de France Bleu Poitou.
La détermination, elle s'entend aussi chez les manifestants réunis en AG à Mel. Manifestants qui se posent désormais la question de la stratégie, comme Mathilde, 25 ans, déjà là lors de la mobilisation du 29 octobre.
Là, on était vraiment plus nombreux. Je me demande en fait qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qu'on a réussi à rassembler, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et de créatif.
Ce qui s'est passé samedi interroge aussi ce participant.
Est-ce que d'autres tactiques moins frontales, comme le sabotage, le tuyau, le canalisation, ne seraient pas plus efficaces à long terme et moins coûteuses en énergie?
Alors des actions plus ciblées, voici ce que répond Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre.
Ça fait partie, à mon sens, des outils et des leviers. C'est pas les outils sur lesquels nous, on s'organise. Nous, on organise des grosses mobilisations publiques avec parfois des gestes de désobéissance. Mais cette lutte, elle a un tas d'aspects, elle a un tas d'outils, elle a un tas de leviers, elle a un tas de visages.
Avec toujours ce même objectif, obtenir un moratoire sur les bassines.
D'autres projets ont avorté en dehors des Deux-Sèvres. En Charente-Maritime, le Conseil d'État a confirmé l'interdiction de remplir 5 bassines construites en 2010 après autorisation préfectorale en raison de l'insuffisance des études d'impact. Dans la Vienne, un protocole validé à l'automne pour creuser 30 réserves en échange d'un tournant agroécologique reste suspendu à une étude d'impact sur le milieu et le préfet a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour autant d'ouvrages. Les opposants, emmenés par le collectif Bassine Non Merci, redoutent un bassinage général du pays si ces projets aboutissent.
Éric Valmire pour France Bleu. Enfin, il va entamer sa formation ce lundi au centre de formation précisément de l'Agence spatiale européenne à Cologne en Allemagne. Raphaël Liégeois est le futur astronaute belge. Une formation qu'il entame après une longue semaine de promotion, Jacques.
Oui, Raphaël Liégeois, c'est l'un des 5 astronautes de carrière de la QV 2022 de l'Agence spatiale européenne. Désigné en novembre dernier, il est rapidement devenu un porte-drapeau noir-jaune-rouge, notamment auprès des jeunes, une manière de les encourager à s'engager dans les filières scientifiques. Cette semaine encore, il a rencontré des élèves dans les provinces de Liège et de Luxembourg.
C'est un sentiment assez dingue, et pour tout dire,
je ne sais pas si je réalise complètement. Ça devient un petit peu plus réel chaque jour. Là, la semaine prochaine, je vais commencer mon entraînement de base. Et puis, j'imagine que ça va encore devenir plus concret. Mais pour l'instant, ça reste encore un petit peu flou, je dirais.
Ces quelques journées de promotion et de transmission aussi auprès des industriels et des universités, ce sont les dernières avant le début de sa formation au Centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne située à Cologne, en Allemagne. Un centre dont le chef n'est autre que Frank De Win, astronaute belge, lui aussi, qui a notamment séjourné dans la Station spatiale internationale et qui partage volontiers son expérience.
Le seul conseil, c'est de rester motivé, de rester de bonne humeur. Tout le temps, ça peut durer longtemps avant qu'on vole. Parfois, il faut attendre. Parfois, il y a des choses qu'on doit faire qui sont peut-être pas trop agréables, mais il faut rester toujours de bonne humeur.
Car en effet, il est encore long le chemin qui, un jour peut-être, conduira Raphaël Liégeois, comme avant lui, Frank De Win et Dirk Frimuth dans l'espace. Après une formation de base de 12 mois, les nouveaux astronautes seront prêts à passer à la phase suivante d'entraînement aux opérations de la station spatiale. Une fois affectés à une mission, ils recevront une formation spécialement adaptée aux tâches à accomplir, en espérant décrocher la Lune.
Oui, la Lune éventuellement après une mission vers l'Agence spatiale internationale, si tout va bien, entre 2026 et 2031. C'est Jacques Crémers qui va refermer l'accent des autres cette semaine. Merci de nous avoir suivis. L'accent des autres et les médias francophones publics reviennent bien sûr le week-end prochain. Excellente fin de semaine.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez. Quand vous voulez, 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Bonsoir Linda.
Bonsoir Mohamed. Ah. J'ai appris un nouveau mot cette semaine.
Je crois que je vais en apprendre aussi alors.
Bah, c'est un mot qui n'existe pas encore dans les dictionnaires officiels, mais qu'on peut lire notamment dans la presse québécoise. C'est d'ailleurs un mot d'origine québécoise. Et ce mot, Mohamed, c'est anglolatrie. Contraction de anglomanie et idolâtrie. L'anglolatrie, c'est le fait de se complaire à insérer volontairement et consciencieusement des anglicismes dans nos speeches, nos chats, nos posts et nos pubs. What else? Vous voyez de quoi je parle?
Je vois.
Tellement plus sexy que quoi d'autre. On utilise même l'anglais pour vendre aux Français des produits made in France, comme ce parfum dont j'oublie le nom, là, mais qui nous dit « spray good, feel good ». Tellement mieux que se parfumer, se sentir bien. Hein? Nos cousins ont l'idolâtrie, ont l'anglolâtrie déconcertante, écrit le journaliste québécois Antoine Robitaille. Mais bon, à leur décharge, nos cousins, donc c'est les Français, hein? Mais à votre décharge, il faut avouer que de nos jours, c'est quand même assez difficile d'éviter l'anglais. Moi, today, quand j'ai pitché mon projet de newsletter en live devant ma team, j'ai été scotchée par le stand ovation. Je l'ai forwardé dans mes stories, ça a été liké, customisé avec des smileys. Ce soir, je suis dead, overbookée, mais que voulez-vous, c'est ma life. Et c'est sûrement pas le président français qui va me remonter les bretelles là-dessus.
Quand on parle d'IoT, vous voulez que je réponde en français? Fait partie des leaders dans le domaine du spatial, avec un lead de l'INRIA avec le CNRS, un leader qui est aujourd'hui contesté, j'allais dire corporate tax, d'impôt sur les sociétés. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est Head Tech, c'est la langue. La francophonie entière, il y a très peu de langues qui ont cette portée.
Voilà un pastiche réalisé par le site d'actualité HuffPost. L'heure est grave, Mohamed, tellement grave que certains linguistes, comme le Suisse Philippe Caron, n'hésitent plus à parler d'éradication linguistique, voire de linguicide collectif. Alors pourquoi? Pourquoi cette idolâtrie, cette fascination pour l'anglo-américain? Eh bien, pour l'ancien premier ministre français, Alain Juppé, qui a vécu un moment à Montréal et qui a donc du recul, cette avalanche de mots anglais s'expliquerait en partie par le fait que les Français ne maîtrisent pas l'anglais. Ils en mettent donc un peu partout pour faire croire.
Ouais.
Posture. L'anglais, selon les start-upers français, a un côté plus funky, plus in, plus open que le français. Non, sérieux. Nails bar. Vous trouvez ça plus attractif que barre à ongles?
Non, pas trop.
Ben non. Alors, Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, d'après moi, c'est pas d'emprunter des mots anglais. Le pire, c'est l'anglicisme en français. Celui qui calque les tournures de phrases propres à l'anglais. Je reviens vers vous pour I'll get back to you.
Ah, ça vient de là.
Ça fait du sens ou ça fait sens pour it makes sense. Non! C'est de l'anglais traduit mot à mot, ça se dit pas. L'Académie française, qu'on en pense ce qu'on en veut, ce qu'on veut, l'Académie propose des équivalents en français. Vous irez voir si ça vous intéresse. Alors, faut-il avoir peur de l'anglolâtrie? Moi, je dirais non. Parce que si l'anglolâtrie nous séduit, bah, c'est peut-être le signe qu'il faut plus de vocabulaire français dans notre langue française et surtout plus de culture française, ou plutôt francophone, la culture. Voilà, j'ai fini.
Mais vous avez remarqué, il y a certaines expressions de l'anglolâtrie qui disparaissent. Save the date, on ne le voit plus, hein, sauf la date.
Oui.
Ouais. Un date, c'est un rendez-vous, pareil, hein, c'est moins tendance.
Ouais, mais il y en a toujours.
Mais il y en a beaucoup pour la vie dure. Merci beaucoup, Linda. Thanks.
Merci à vous.
Laisse-moi te raconter comment ta maman puis moi on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est parlé, c'était sur un toit, tout était inondé. Notre premier bec, c'était bien correct. Faut dire qu'on était stressé. Juste d'exploser. Nos premiers rapprochements, c'était parce que le gouvernement nous avait demandé de repeupler à moi et puis ta maman. Elle t'a donné la vie entre deux pandémies. Pendant que tu es des zombies, c'était loin d'être le paradis. L'amour au temps, la fin des temps.
Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. de la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pau Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Ceci n'est pas un documentaire, mais une publicité pour protéger la langue française à l'aide d'anglicismes. C'est le pari audacieux de la publicité que le gouvernement québécois diffuse depuis hier. À l'UQAM, les étudiants prennent connaissance de la vidéo qui fait d'abord sourire.
Je la trouve plutôt drôle, en fait.
Puis réfléchir.
Oui, ça nous fait réaliser que c'est ça. C'est des mots qu'on utilise souvent, puis c'est à nous de faire attention pour éviter le déclin du français.
Mais la jeunesse se sent injustement ciblée par le choix des anglicismes.
J'ai l'impression qu'ils visent juste notre groupe, puis qu'ils peut-être nous accusent du déclin du français.
Si on veut shamer, excusez-moi l'expression, les ados, si on veut les culpabiliser, je suis pas sûr qu'on a la bonne cible.
Le ton humoristique n'a d'ailleurs pas convaincu les oppositions à Québec.
Moi, je voudrais pas qu'on fasse porter le poids de l'avenir de la langue française sur la façon dont on peut parfois utiliser des anglicismes.
La linguiste Nadine Vincent, qui a comptabilisé cet anglicisme dans cette publicité de 45 mots, y voit l'illustration d'un avenir sombre du français au Québec.
Le passage d'une aussi grande quantité d'anglicismes dans la langue soignée, c'est une caricature ou un avertissement de ce qu'on peut risquer.
Le faucon pèlerin.
Mais le message atteint-il le public visé?
Si l'objectif, c'est de générer des conversations, puis générer une prise de conscience, la publicité, elle a le potentiel certainement de l'atteindre.
Ah, c'est chill.
Cette publicité qui fait énormément réagir a peut-être même déjà atteint sa cible, à en croire le ministre Roberge.
L'essentiel, c'est qu'on débatte la place du français, puis qu'on soit tous interpellés, qu'on prenne conscience de la fragilité du français.
Mais malgré que ses skills de chasse soient insane.
Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en en français.
Le faucon, vraiment sick, a-t-il raté sa cible? Eh oui, le gouvernement Legault a lancé le mois dernier une nouvelle offensive publicitaire pour interpeller les Québécois face au déclin du français. Celui qui porte le message est cette fois-ci le faucon pèlerin, un oiseau de proie vraiment sick, qui est reconnu pour être assez chill. Cette publicité qui se termine par un message gouvernemental solennel, écrit en blanc sur un fond noir. Au Québec, le français est en déclin. Renversons la tendance. Utilise un nouveau langage qui fait référence aux mots choisis par les adolescents lorsqu'ils se parlent entre eux. Cette publicité n'a pas tardé à faire réagir des milliers de francophones sur la toile, même des amis en France, eh oui. Pour le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit, je cite, « C'est au sein du gouvernement qu'il faut prendre conscience que le français est en déclin. La population est déjà au courant depuis plus de 5 ans. Nous réitérons que nous sommes disponibles pour vous fournir un plan d'urgence pour protéger notre langue. » Pour la présidente du Comité national des jeunes péquistes, Marie-Laurence Desagnier, elle a pour sa part déploré que la publicité caricaturale des jeunes, que l'on souhaite pourtant intéresser au sort de notre langue, est une faillite. Et oui, les libéraux constatent de graves lacunes en français au collégial. Ils réclament une commission parlementaire en toute urgence. En effet, depuis des années qu'on lance l'alerte. Eh oui, année après année, on dit attention, attention. le français est en déclin au Canada. Le français va mal en lui-même, mais également par rapport aux autres langues. Il n'arrive même plus en deuxième place à des langues les plus parlées à la maison. Eh oui, d'ici quelques courtes années, le Punjabi ou le Tagalog, deux langues en forte croissance, devraient eux aussi dépasser le français. Eh oui. Au Canada, sans le Québec, donc sur 30 millions de personnes, il y a plus de 500 000 personnes dont la langue prédominante parlée à la maison est le français. Il faut surtout, surtout ne pas négliger ces francophones engagés, passionnés, bénévoles, un peu partout au Canada. Ces minorités francophones qui militent et se battent à tous les jours pour vivre en français. Leur courage est immense, leur combat est essentiel. La langue française et la qualité de la langue française en déclin partout au Canada. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers étudiants, quelles sont vos suggestions, vos idées ou vos stratégies pour renverser la tendance? Écrivez-moi à popourri@cut.fm. Le faucon vraiment sick a-t-il raté sa cible? À suivre chaque dimanche sur cette antenne. Et maintenant, place à Emmanuel Queyrade qui se trouve à la Foire du Livre de Bruxelles et où il continue à célébrer les 20 ans de la maison d'édition Mémoire d'Encrier avec son fondateur, Rodney Saint-Éloi. Longue vie à cette maison d'édition unique en son genre, et oui, qui fait place à la grande diversité des écrivains francophones, autochtones, un peu partout au Canada. Joyeuse fête de Pâques sur CUT FM.
France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF. Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre librairie francophone. Nous sommes de retour à la Foire du Livre de Bruxelles, sur le stand de la RTBF, magnifique espace d'ailleurs. Et voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
C'est l'un des événements actuellement en librairie. La Belge Adeline Dieudonné publie son nouveau roman. Après le succès de La Vraie Vie, elle raconte une histoire sombre et torturée qui va vous faire frissonner. C'est une légende vivante de la bande dessinée belge. Jean Van Hamme, créateur de Thorgal, 13, Largo Winch, ose reprendre une histoire abandonnée par Edgar Jacobs. On vous raconte cette histoire incroyable tout à l'heure sur l'espace BD de la foire, dans un autre endroit où nous irons. Et puis, il y aura aussi une révélation choc qui va ébranler le monde de la BD. Nous célébrons depuis la semaine passée les 20 ans de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, maison d'édition québécoise. Un reportage en deux parties vous est proposé. Anniversaire fêté aussi à Bruxelles. Seconde partie de ce reportage aujourd'hui avec une grande balade à travers Montréal. Et nous commençons cette émission avec l'événement francophone de la semaine. C'est donc la Foire du Livre de Bruxelles qui se tient tout le week-end. Nous sommes sur place pour cette occasion. Et comme chaque année, le prix Première est remis ici. C'est un prix belge qui récompense un premier roman francophone. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel Queyrade.
Vous êtes notre libraire belge, oui, de la librairie du Théâtre Le Public ici à Bruxelles. Et vous faites partie aussi du comité de sélection de ce prix.
De présélection, oui.
Sélection. Alors, vous allez nous donner le lauréat du prix, Déborah. Quel est le prix Première 2023?
Tatatam, Emmanuel.
N'en faites pas trop non plus.
Anthony Passeron.
Oui, c'est ça.
Pour Les enfants endormis aux éditions Globe.
Exactement. Et vous savez quoi? Il est avec nous. Comme quoi, la radio, on fait des miracles. Anthony Passeron est avec nous. Bonjour, Anthony.
Bonjour.
Merci beaucoup. Félicitations. Toutes nos félicitations. On vient d'apprendre cette bonne nouvelle sur cette Foire du Livre de Bruxelles. Quelle est votre réaction, Anthony?
Ma réaction, c'est d'être dépassé de plein de choses, dépassé d'honneur. De l'honneur qui est fait à ce livre par le comité de sélection, par le comité de lecture, et c'est un très grand honneur et c'est une grande joie de pouvoir défendre ce livre en dehors des frontières françaises, d'aller jusqu'en Belgique, et voilà.
Alors vous êtes français, vous, originaire de Nice, magnifique ville, professeur de lettres et aujourd'hui concepteur pédagogique, je crois.
Oui, absolument.
Ça, c'est une subtilité de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça veut dire?
Non, c'est pas une subtilité, c'est plutôt une porte de sortie.
Ah oui, d'accord, vous voulez faire quoi?
N'importe quoi pour quitter l'éducation nationale.
Ah, c'est important,
en gros, c'est mettre mes compétences pédagogiques au service de tout un tas de projets.
D'accord. Vous n'étiez pas heureux en tant que professeur ?
Si, très heureux, mais j'avais envie de prendre un peu l'air.
Bon. Alors, Les Enfants Endormis, c'est votre premier roman paru aux éditions Globe. L'histoire de votre oncle toxicomane qui est mort du sida. Un traumatisme familial et un drame vécu comme une honte à l'époque.
Oui, absolument. Mon oncle était le fils d'un commerçant d'une petite famille de bouchers-charcutiers de l'arrière-pays niçois. Donc, quand il va tomber dans la toxicomanie, la famille ne va pas être en mesure d'en parler, de réagir. Et quand cette toxicomanie va charrier avec elle un virus qu'on prête plutôt aux homosexuels à l'époque, dans un petit village où il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a que des vieux garçons, c'est pas tant un livre sur le sida en tant que tel, que plutôt un livre sur comment le sida va percuter des vies, en l'occurrence des vies rurales, dans une géographie particulière, celle de la ruralité, de ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique.
Oui, vous êtes dans un petit village qui s'appelle Puget-Aigné, sur les hauteurs de Nice. Et alors, vous racontez comme ça l'histoire de la recherche sur la maladie dans les années 80 aussi, la compétition notamment entre la France et les États-Unis.
Oui, absolument, il a fallu essayer de faire un point comme un écho à cette histoire vécue de manière intime. J'ai voulu intégrer l'histoire de ma famille dans l'histoire collective, et étant donné que 40 ans après, là, ma famille n'est toujours pas en mesure de dire ce que ça voulait dire concrètement d'avoir un jeune séropositif dans sa famille, il a fallu aller me documenter. Et en me documentant cette fois dans un corpus scientifique, j'ai découvert une histoire qui m'a semblé elle aussi éminemment romanesque, et il m'a semblé nécessaire de raconter les deux histoires en parallèle.
Alors, de grands professeurs en France, hein, on porte cette recherche, le professeur Luc Montagné, il y a eu le professeur Sherman aussi. Toute cette histoire, on la retrouve dans votre livre, mais c'est aussi un roman sur la solitude des familles, à une époque effectivement où la méconnaissance du virus était quasi totale.
Oui, absolument. J'ai essayé d'écrire le roman du sida de ceux qui n'ont pas pu le raconter eux-mêmes. C'est-à-dire que dans le corpus artistique, le sida a été raconté par des intellectuels, des artistes, plutôt des métropolitains, des urbains au sens premier du terme, et il m'a semblé que dans l'angle mort des représentations, les ruraux n'étaient pas représentés et aussi les toxicomanes étaient sous-représentés. Et parmi les choses qui font a posteriori que ma famille n'est toujours pas en mesure de porter cette histoire, il y a aussi le fait qu'elle ne s'est jamais vue représentée dans la production artistique. Et donc j'ai essayé de répondre à ça par la production de ce livre.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et bonjour Rodney Saint-Éloi.
Bonjour Emmanuel.
Après la Suisse la semaine dernière au Salon du Livre de Genève, vous êtes ici en Belgique à la Foire du Livre de Bruxelles. On fête les 20 ans des éditions Mémoires d'Encrier en ce début de printemps. On a diffusé la première partie d'un grand reportage avec vous la semaine dernière quand nous étions à Genève. Comment ça se passe cet anniversaire, Rodney ?
Ça se passe très très bien. Je ne dois dire que merci, gratitude aux libraires, aux gens qui nous accueillent de partout. Et là, on a peur parce qu'on a travaillé sur l'invisibilisation et aujourd'hui, on voit qu'il y a un regard sur nous-mêmes et sur les livres.
Voilà, vous en parliez la semaine dernière dans notre reportage, Rodney. Pendant 20 ans, vous avez métissé les littératures du monde en publiant au Canada des auteurs de toutes origines sur les valeurs d'Édouard Glissant. Vous avez créolisé la culture au Québec.
En fait, nous sommes dans la relation à l'autre. Je pense que ce procès d'altérité est notre marque de fabrique, parce que nous sommes des êtres humains, donc nous sommes ensemble, quelle que soit la différence. Et c'est notre travail pour montrer, pour abattre les barrières qui font qu'il y a de grands auteurs ou de petits auteurs, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, parce que nous sommes véritablement ensemble.
Ensemble. Quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
On va le voir tout de suite, on va le constater. On va écouter la seconde partie de notre reportage avec trois de vos auteurs et une grande balade à travers Montréal. Vous êtes prêts pour ce voyage ?
Oui.
Ah oui, bah oui, vous forcément, oui. Vous êtes dedans.
Je ne fais que ça.
On y va, c'est parti. On va aller à la rencontre de trois auteurs, Rodney Saint-Éloi, pour ses 20 ans de mémoire, avec Yara Elgadman, Melika Abdelmoumen et Blaise Ndala. On va commencer par Melika et on va aller dans un autre lieu. On va sortir du siège de Mémoire d'Encrier pour se retrouver pas très loin d'ici. On y va ?
Oui, on va à Jean-Talon, au marché Jean-Talon. Allez,
en voiture ?
À pied.
Ah, à pied, oui. C'est écolo.
À
Alors là, elle arrive, Melika Abdelmoumen.
Salut.
Bravo, Melika.
Bonjour.
Bonjour, Melika.
Bonjour, Emmanuel. Allô, René.
Melika est venue.
Vous êtes écrivaine, éditrice et professeure née à Chicoutimi.
Oui.
Et dans votre livre Baldwin, justement, Styron et moi, vous racontez l'amitié entre William Styron, un blanc descendant de propriétaires d'esclaves, auteur du Choix de Sophie, et James Baldwin, noir descendant d'esclaves, auteur de livres sur le racisme. C'est le symbole de l'Amérique du XXe siècle, en
oui.
fait.
D'une certaine manière, et même peut-être du 21e, d'une certaine manière, c'est-à-dire que eux, c'était propre à leur époque, cette tentative de jeter des ponts entre deux communautés qui avaient des histoires parallèles qui semblaient ne jamais vouloir se croiser. Ils ont décidé que ces deux histoires allaient se croiser. Et nous, on est, je pense, au 21e siècle, dans le croisement de ces histoires-là, avec tout ce que ça peut poser comme question, comme débat, comme stress, comme angoisse, comme paranoïa et comme amitié aussi. Voilà.
Alors là, on est au marché Jean Talon.
Ouais.
Vous avez choisi de nous emmener ici. On est face à un pâtissier marocain, je suppose, le Riad. Pourquoi cet endroit, Melika?
C'est très drôle parce que quand je vivais à Montréal, avant d'aller en France, j'ai été en France de 2005 à 2017. C'est un quartier que je connaissais très peu. J'étais beaucoup plus au sud et à l'ouest. Et quand on venait en vacances ici, je venais toujours au marché Jean Talon, puis c'était l'endroit où il y avait les fruits québécois, le sirop d'érable,
oui,
le fromage,
ça.
Tous les trucs québécois qui me manquaient quand j'étais à Lyon.
Oui,
et
vrai.
Quand on est revenu vivre ici, je voulais être proche du marché Jean Talon. Donc maintenant, j'habite pas très loin du marché Jean Talon, mais c'était vraiment l'endroit où je venais quand j'avais des bouffées de nostalgie du Québec. Et mon mari français adorait aussi, bien
là,
sûr,
oui,
parce
là.
Que lui, il découvre
trouve toutes
vraiment...
les spécialités.
Ben, oui,
donc,
absolument. Et puis
tout
après,
est
il y a
là.
Le côté international. Il y a la Société des alcools du Québec, où on peut aller s'acheter du bon vin, beaucoup plus cher qu'en France, malheureusement.
La SAQ, mais... hein,
la SAQ, c'est ça, exactement.
Bon, elle est 20 ans de Mémoire d'Encrier, alors. Vous arrivez au bon moment, finalement.
Oui, oui, oui. Ben, ça faisait longtemps que Mémoire d'Encrier m'intéressait, mais par une espèce de timidité ou de complexe, j'osais pas les approcher. Et quand j'ai finalement osé, on m'a fait sentir comme si j'avais toujours été chez moi. Donc, fêter les 20 ans avec eux, c'est clair que c'est un honneur et un bonheur. Et j'espère que c'est que le début d'une longue série de décennies pour eux, parce que le travail qu'ils font, pas seulement au Québec, hein, parce que ça s'adresse au monde entier, au monde francophone en entier, ce que Mémoire d'Encrier fait. Et ce travail-là, justement, pour jeter des ponts et pour casser les barrières est très important. Et ils sont un peu les seuls à le faire de cette façon-là. Je dois dire.
Bon, on va vous laisser faire vos courses, du coup.
D'accord. Hein,
parce que vous êtes au marché Jean Talon.
Je suis obligée de m'acheter des baklava à cause de vous.
Ah, là, c'est obligatoire.
C'est votre faute. Hein.
C'est juste là, regardez. La dame vous sert dans des boîtes en carton et vous allez pouvoir vous régaler.
Absolument. Merci beaucoup.
Bonne dégustation, hein. Chère madame.
Merci, Emmanuel.
Merci, Melika Abdelmoumen. À bientôt.
Oui.
On va continuer notre périple. René Saint-Éloi, on va aller dans un autre quartier.
On va aller à Montréal. On va aller au pied de Montréal. Yara est aussi éditrice chez Mémoire d'Encrier, en plus d'être romancière. Donc, c'est un lieu de méditation. C'est une espèce de pèlerinage pour tous les habitants de Montréal. Donc, je pense que les gens qui vivent à Montréal connaissent bien ce lieu.
Alors, justement, il y a Yara qui est en haut des marches. Là, on va monter quelques marches. Avant de conclure le son de l'outre-mer avec le Guadeloupéen Fred D et un extrait de son nouvel album à venir.
Tu dis que tu ne veux plus aimer. J'ai le moral à zéro. Y'a des larmes sur le djembé. Mais forme un fond en saut. Tu dis que tu ne veux plus aimer. J'ai le moral à zéro. Y'a des larmes sur le djembé. Mais forme un fond en saut. Y'a le limbé haïtien. Ça passe mon frère. M'chita n'en bala. Kaï l'aime son jeu. Mais dis bon bagay. Y'a le limbé de sainte qui finit en tourment d'amour. Le limbé de mon allo. Oui, qu'on rabat côté. Y'a le limbé espagnol. Qu'a fait tête en vine folle. En mix en bouillon. La misère qu'a dansé bachat. Y'a le limbé qui fait grossir. Le limbé qui fait maigrir. Mais attention mon gars. J'crois que t'as pas vu le pire. Tu dis que tu ne veux plus aimer. J'ai le moral à zéro. Des larmes sur le djembé, mais pas ma fonce. Tu dis que tu ne veux plus aimer. J'ai le moral à zéro. Y'a des larmes sur le djembé, mais pas ma fonce.
son cœur au soleil. Elle a butiné la belle abeille. Tu as fait le con, elle s'est envolée. Mais attention, hein. Si tu as l'imbé addictif, parce que t'es émotif, tu penses à son soutif et lui à l'humain.
Un extrait de la chanson du limbé de l'artiste Fred D, originaire de la Guadeloupe. Titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette émission. Merci à la Foire du Livre de Bruxelles et aux équipes de la RTBF aussi. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince, avec Jean-Christophe Olivier de la RTBF. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter, avec les équipes de la RTS et de Radio-Canada. La semaine prochaine, Philippe Claudel sera dans la librairie francophone, entre autres. Bon week-end, bonne semaine à tous.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Adra bella cosa, adra bella cosa, ding e da,
ding e da,
écoutez la planète chanter.
Tout seul quelque part dans mon malheur, je me questionnais sur le bonheur. C'est bouleversé, noyé dans mon silence, que rembattait perdu dans ma souffrance. Drôle de destin, maintenant te voilà tombé sur mon chemin. Suivre mon instinct, vraiment ce qu'il nous faut c'est de partir au loin. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. À tes côtés tout est différent, pourquoi ne pas suivre le courant. Une passion intime, des moments sublimes, le temps immobile, une crainte inhabile. Rien n'arrive pour rien, pour tout ce que je veux, c'est quelqu'un de bien. Suivre mon instinct, vraiment ce qu'il me faut, c'est partir au loin. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Avec toi, le sentiment de nouveau départ. Quand je danse avec toi, moins de tristesse, plus de richesse. Quand je danse avec toi, tranquillité qui m'adresse. Quand je danse avec toi,
casser l'exigence et savourer l'ambiance. Charmer les corps, ce qui est des belles fréquences. Aucune réticence, aucune confidence. Tout est intense quand transforme mon danse.
Partir vers l'au-delà. Sentiment de nouveau départ. Quand je danse avec toi, moins de tristesse, plus de richesse. Quand je danse avec toi, tranquillité qui m'adresse. Quand je danse avec toi,
casser l'exigence et savourer l'ambiance. Charmer les corps, ce qui est des belles fréquences. Aucune réticence, aucune confidence. Tout est intense quand transforme mon danse.
Partir vers l'au-delà. Vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Vers l'au-delà, la, 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 la,
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, a le plaisir de vous inviter à un symposium sur les projets de recherche SCAPE, pédagogie plurilingue et technologie numérique, pour soutenir l'apprentissage des STEAM, les 25 et 26 avril 2023 à Toronto. Ce symposium de 2 jours vise à mettre en lumière la recherche appliquée relative à la pédagogie AMI des langues et aux technologies numériques dans les classes et les écoles élémentaires et secondaires. L'équipe de recherche des projets SCAPE a collaboré avec des enseignants, des élèves, des décideurs, des formateurs d'enseignants et des chercheurs internationaux afin de donner aux élèves multilingues nouvellement arrivés l'occasion de s'épanouir dans leur classe de STEAM et à l'école de manière plus générale tout en se rapprochant de leur famille. Soyez nombreux à participer à ce symposium, cette conférence, pour découvrir quels sont les avantages d'une pédagogie amie des langues et les ressources à votre disposition pour devenir un éducateur sensible à la culture. Le CREFO vous y attend le mardi 25 avril de 10h à 15h30. Et tout se déroulera en français avec interprétation simultanée en anglais. Et le mercredi 26 avril de 10h à 15h30, interprétation en anglais et oui, simultané en français. Vous pouvez participer soit en présentiel au Nexus Lounge, 12e étage de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, 252 rue Bloor Ouest, métro St. George, ou en ligne, comme vous le voulez, sur Zoom. Vous y retrouverez le lien sur notre site web popourrichaud.com. Mardi 25 avril de 10h à 15h30 et mercredi 26 avril de 10h à 15h30, symposium sur les projets de recherche SCAPE. Pédagogie plurilingue, technologie numérique pour soutenir l'apprentissage des STEAM, pour découvrir quels sont les avantages d'une pédagogie amie des langues et les ressources à votre disposition pour devenir un éducateur sensible à la culture. C'était un message du CREFO, Université de Toronto, partenaire de Popourri Show. Et nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui nous appuient dans cette aventure des francophonies depuis plus de 35 ans. Et je vous rappelle l'invitation des Français du monde à l'État Toronto, qui souligne le 106e anniversaire de la bataille de Vimy, dimanche prochain, 16 avril, à 10h, au 55, au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville à Toronto, Metro Queen. Plusieurs dignitaires et corps diplomatiques seront présents. La bataille de la crête de Vimy, qui s'est déroulée dans le nord de la France, est considérée comme un fait marquant de l'histoire canadienne. Beaucoup de soldats canadiens étaient de jeunes hommes à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, unis dans leur lutte pour la justice, la paix et la liberté. De plus, certaines techniques de combat innovatrices mises en pratique à la crête de Vimy allaient contribuer à la victoire finale des Alliés un an et demi plus tard. La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Après 4 jours de combats sanglants, les Canadiens s'étaient rendus maîtres de la crête de Vimy au prix de 10 600 tués et blessés. La bataille est devenue depuis un symbole important pour le Canada. On vous y attend dimanche prochain, 16 avril, à 10h, au 55, Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville à Toronto, Metro Queen. Tous les détails sur notre site popourrichaud.com.
Serrez vos ceintures. Atterrissage imminent vers la planète Pâques 2023. Arrondissement de Serres. Les fils et les filles se retrouvent pour célébrer la fête de Pâques sous le signe La fête en famille. Hey! Adekus Miadjatolo t'invite à rejoindre l'arrondissement de Serres pour vivre la Pâques 2023. Allez, allez, allez. Concert patron. Pique-nique. Foot en live du spectacle. Programme samedi 8 avril. 18h, caravane toute flamme du marché Hundo à l'hôtel Poulor. 19h, projection du film Histoire de l'Adécus Bien Gratelo. 20h, grand spectacle. Nos artistes ont du talent. Promotion de boissons, barbecue, fête. Dimanche 9 avril, jour de Pâques. 11h à l'hôtel Poulor. Pique-nique, concert. Du Anaoumi et du soleil. Jeudi vert, réjouissance bon enfant. 16h sur le stade du Saint. Le football en live. Le challenge retour entre jeunes de l'arrondissement et les virtuoses de l'Adécus. Viens célébrer la Pâque à Saint et entre dans la grâce du Christ ressuscité.
À la ville, comme à la campagne, ou à la plage, Popourichaud. CUT 89,5 FM, la radio qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Joyeuse Pâques! Et avant de passer au journal d'Haïti et des Amériques, quelques brèves de nos médias partenaires. Après des mois et des mois de tergiversation, Québec et Ottawa ont dénoué une impasse majeure en s'entendant sur l'inclusion des principes de la loi 96 aux entreprises à la charte fédérale dans le projet de loi du gouvernement Trudeau sur les langues officielles, annonce faite le 31 mars. C'est un pas important vers son adoption. Et oui, par ailleurs, le processus de francisation des entreprises de juridiction fédérale va bon train. 98% d'entre elles seraient désormais engagées dans des démarches avec l'Office québécois de la langue française, une nouvelle obligation depuis l'adoption du projet de loi 96. Toujours dans le même domaine, le règlement de l'offre active sur les services en français en Ontario est entré en vigueur samedi 1er avril. Et je vous assure, c'était Ce n'était pas un poisson d'avril. Désormais, tout organisme ou institution désignée en vertu de la loi sur les services en français doit accueillir les usagers dans leur langue sans qu'ils aient besoin de le demander. Mais l'application effective de ce mécanisme pourrait prendre encore plusieurs années, le temps de former un personnel à la hauteur de la tâche. Pour Fabien Hébert, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, c'est un grand pas, mais toutefois, il faudra du temps pour que la loi soit pleinement appliquée. Ma question, il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent, qui ne font pas confiance aux soins de service en français dans la grande région de Toronto. Il y a aussi manque de diplomatie, peut-être aussi. La discrétion n'est pas toujours présente dans certains milieux. Eh oui, le dit parce que nous recevons souvent des commentaires et des plaintes. Beaucoup de francophones ne sont même pas au courant de cette belle nouvelle. Et oui, à qui la faute? Retrouvez tous les détails sur le site ONFR+ ou sur notre site popourichaud.com. Immigration francophone, Ottawa vise l'Afrique. Et oui, aller en Afrique pour recruter de nouveaux arrivants sera un des éléments essentiels de la prochaine stratégie en immigration francophone d'Ottawa, avance le ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Un article sur le site ONFR+. Les programmes d'immersion suscitent beaucoup de débats dans certaines provinces. Et oui, certains parents disent que le niveau n'y est pas. Méconnus, mal compris ou mal aimés, les programmes d'immersion française de l'Alberta continuent pourtant, année après année, de former des locuteurs francophones fonctionnels et résilients. Ces laboratoires d'apprentissage encouragent aussi les enseignants à faire preuve de flexibilité et doivent parfois ajuster leurs critères d'évaluation en fonction du niveau de langue de leurs élèves. Un article de Sarah Fédération, conseillère pédagogique pour le conseil scolaire Edmonton Catholic. L'article que vous retrouverez dans Franco Presse, sur notre site aussi, popourichaud.com. Des Inuits de Canada réclament, dans un mémoire déposé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, un quota de diffusion de 5% de musique autochtone dans les radios du Canada. La démarche est appuyée par des leaders et artistes inuits, dont l'auteur Florent Volant, un des rares artistes à avoir réussi à faire sa marque dans un univers musical essentiellement francophone et anglophone. Et je vous rappelle que notre émission suit à la lettre les règlements du CRTC de SOCAN chaque dimanche en incluant une proportion d'artistes francophones du Canada. Stromae, un des artistes francophones qui vend le plus de musique dans le monde, est malade et il a dû renoncer 3 autres concerts en France. On lui souhaite un prompt rétablissement. Je vous rappelle rapidement, la Société d'Histoire de Toronto est en mode de recrutement. Allez sur le site sht.ca, vous allez avoir tous les renseignements. Je vous rappelle que la Société d'Histoire de Toronto est un organisme à but non lucratif dont le but est de mettre en lumière principalement l'histoire francophone de Toronto. Il offre des conférences, des visites guidées et des excursions dans les lieux historiques de la grande région de Toronto. De plus, il propose des expositions, des ateliers et réalise également des projets de recherche. La prochaine Assemblée Générale annuelle est prévue pour le lundi 8 mai. Pour plus d'infos, visitez sht.ca. Et dans quelques semaines, Popourri Chaud va lancer sa campagne d'adhésion printanière. Devenez membre à votre tour, partenaire de la seule émission en langue française sur CUT 89,5 FM. Ça fait plus de 35 ans que ça dure. Allez, prenez une longueur d'avance. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Place au Journal d'Haïti et des Amériques avec Radio France Internationale. Je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. Excellente journée, joyeuse Pâques sur CUT 89,5 FM. Vivre ensemble.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Au rendez-vous d'Haïti et des Amériques, rendez-vous présenté par Anne Cantner. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui encore, Donald Trump qui parle d'une insulte à la nation après son inculpation formelle et sa comparution à New York. Nous serons en ligne dans un instant avec notre envoyé spécial et nous verrons aussi comment la presse américaine analyse ce que le Financial Times présente comme le théâtre judiciaire de Trump. À suivre aussi, reportage en Haïti, dans la ville des Gonaïves, berceau de la musique rara, des sonorités traditionnelles très représentatives de l'ambiance de Pâques. Et puis comme chaque jour, nous retrouverons nos confrères de la première pour le journal des Outre-mer. Alex Leveillé, nous parlerons avec vous du mouvement Balance ton porc qui arrive en Martinique.
Et nous évoquerons aussi la production de chocolat en Guadeloupe, vacances de Pâques oblige.
Merci Alex, à tout à l'heure. Voilà pour le programme. Bienvenue.
Radio France International.
34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. We cannot and will not normalize serious criminal conduct.
Les déclarations historiques du procureur Alvin Bragg, 34 falsifications pour dissimuler un autre crime. C'est un acte criminel dans l'État de New York, dit-il. Qui que vous soyez, nous ne pouvons pas banaliser des comportements criminels si graves. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un ancien président a comparu devant la justice pénale. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Envoyé spécial de RFI à New York, on va revenir avec vous sur cette journée vraiment pas comme les autres.
Oui, c'est à la mi-journée que Donald Trump est arrivé au tribunal de Manhattan en provenance de la Trump Tower, sa résidence new-yorkaise. Son convoi motorisé, suivi par plusieurs hélicoptères de presse, s'est arrêté dans une rue adjacente, suffisamment loin de la forte présence médiatique qu'il attendait, ainsi que de ses partisans et de ses opposants. Étroitement surveillé et même séparé par de nombreux policiers après que les esprits avaient commencé à s'échauffer un peu au milieu de la matinée. On a préféré éviter d'éventuels problèmes, chacun de son côté donc, pour exprimer ses idées et offrir un spectacle qui, il faut bien le dire, tenait un peu du cirque avec des comédiens, des musiciens et autres artistes venus profiter d'une exposition assez rare.
À son arrivée, Donald Trump s'est engouffré très vite, sans un geste, sans un mot, dans le bâtiment.
Oui, c'était 45 minutes avant le début de l'audience, le temps pour lui de procéder à la prise de ses empreintes digitales pour ouvrir son dossier criminel. En revanche, pas de mugshot, vous savez Anne, c'est ce portrait d'identité judiciaire de face et de profil qui est souvent pris et diffusé dans les affaires criminelles. Apparemment, cela a été l'objet d'une négociation. Il est probable que la justice a estimé que le visage de Donald Trump est suffisamment connu et reconnaissable. Et puis son entourage avait laissé entendre qu'il pensait utiliser ce fameux mugshot à des fins de communication et sans doute que le tribunal n'a pas voulu lui laisser ce plaisir. D'ailleurs, un faux mugshot a été diffusé par l'équipe de campagne sur des t-shirts qui sont à vendre sur le site officiel du candidat, si ça vous intéresse, Anne.
Pas sûr pour l'instant. Et puis, juste après ça, eh bien, l'audience a commencé, Guillaume.
Oui, Donald Trump est entré dans la salle d'audience sans un mot, le regard noir, la mâchoire serrée, manifestement assez mécontent.
Pas un mot pour les journalistes, à peine un coup d'œil au moment d'entrer dans la salle Guillaume pour se faire notifier les charges qui pèsent contre lui.
Oui, il y en a 34 fois la même en fait. Il est accusé d'avoir falsifié 34 documents commerciaux officiels pour masquer un autre crime, celui d'avoir voulu influencer illégalement le résultat d'une élection, celle qu'il a gagnée en 2016 en voulant acheter le silence de plusieurs personnes, dont principalement une actrice porno qui affirme avoir eu un rapport sexuel avec lui. 34 fois, Donald Trump a plaidé non coupable. Il est ressorti libre, non menotté et sans avoir payé de caution pour cela, dans la mesure où il n'est pas accusé d'un crime violent.
Et il a profité de cette liberté pour retourner en Floride.
Exactement, dans son avion privé et dans son club privé de Mar-a-Lago, là devant ses partisans, il a prononcé une allocution de 25 minutes. Loin d'être abattu, le candidat à l'investiture républicaine pour 2025 s'est même montré particulièrement offensif.
Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille aux États-Unis. Mon seul crime, c'est d'avoir courageusement défendu notre pays contre ceux qui veulent le détruire.
Ceux qui veulent détruire les États-Unis, à commencer par le président lui-même, selon Donald Trump.
Oui, il s'est montré très dur contre l'administration Biden, accusé d'être responsable de ce qu'il estime être un déclin accéléré du pays, contre les procureurs qui enquêtent sur lui dans différentes affaires. Des poursuites politiques dénoncent-ils quand ils ne traitent pas carrément l'un d'entre eux de fou. Et il se donne une mission, sauver l'Amérique.
Et en fin de compte, quel bilan peut-on tirer de cette journée sur le plan politique, Guillaume ?
C'est assez difficile à évaluer et on le saura dans les prochains jours au gré d'enquêtes d'opinion qu'il faudra prendre avec une certaine prudence. Ce que l'on peut noter, c'est que malgré la situation qui aurait été catastrophique pour n'importe quel autre homme politique, lui ne cède pas un pouce de terrain. Il continue à dénoncer des poursuites politiques. Il faut dire que 34 fois la même accusation, il y a un petit côté répétitif qui peut donner l'impression que le procureur n'a pas un dossier très riche. Enfin, la campagne Trump affirme qu'elle a levé plusieurs millions de dollars depuis que l'inculpation a été annoncée.
Guillaume Nodin, merci.
RFI à Gonaïves, 90.5 FM.
Avant de faire le point sur l'actualité des Outre-mer avec nos confrères de la première, on va écouter l'ambiance du Rara. Cette musique traditionnelle haïtienne, malgré une situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus difficile, avec, on l'apprend encore aujourd'hui, un nombre record d'enlèvements, 389 au premier trimestre, eh bien malgré tout cela, on manque rarement une occasion de danser le rara, surtout au cours de la semaine de Pâques. Reportage de Ronel Paul auprès des bandes de rara des Gonaïves, qui grâce à leurs trompettes, leurs caisses et leurs tambours, emmènent avec elles des foules de spectateurs.
Ce dimanche après-midi, sur la route nationale numéro 1 à Mapou-Chevalier, l'ambiance est à son paroxysme. Les bandes de rara défilent à tour de rôle avec des performances qui font chavirer des spectateurs.
Pourquoi tous les jours ne deviennent pas des dimanches? Chaque jour devrait être un dimanche.
Ce jeune homme pourrait passer toute sa vie à danser au rythme de sa bande nommée Belle Étoile.
Paul, les Gonaïves, RFI.
Les instruments rara et les objets vaudous qui accompagnent les rituels sont exposés en ce moment au CAI dans les locaux du Business and Technology Institute.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Alex Leveillé.
Bonjour Anne Contener.
Le mouvement Balance ton port arrive en Martinique.
Et oui, une page Instagram a été récemment ouverte dévoilant les témoignages de Martiniquaises mettant en accusation une dizaine d'hommes pour des faits d'agression sexuelle et de viol avec les noms des personnes incriminées. Mais attention, une telle démarche peut exposer son auteur à des poursuites. Claude Gracien de Martinique, la première.
Quand des accusations s'affichent sous cette forme sur un réseau social, cela tombe sous le coup du délit de presse. Et dans le cas de la publication de noms sur une page Instagram, nous serions dans de la diffamation. C'est-à-dire que les écrits en question prêtent à des personnes des comportements moralement ou pénalement condamnables. Elles voient leur honneur et leur considération bafouées car, on le rappelle, toute personne est présumée innocente. Il faut cependant distinguer deux catégories de diffamation. Public et privé. On parle de diffamation publique quand les écrits visés sont accessibles par tous sans restriction. La diffamation privée est celle qui est relevée dans des groupes ou réseaux privés, comme il en existe sur WhatsApp par exemple. Toutes deux sont des délits mais pas punis de la même manière. Sur un groupe privé, vous êtes passible d'une amende de 38 euros, alors que dans la diffamation publique, la peine encourue est de 12 000 euros d'amende par personne citée. En l'occurrence, dans cette affaire, on ne se trouve pas dans de la dénonciation calomnieuse comme certains pourraient le croire. La dénonciation calomnieuse, c'est quand vous portez contre une personne une fausse accusation à une autorité susceptible de pouvoir la sanctionner.
Claude Gracien de Martinique, la première. Et cette belle initiative pour mettre en avant la production de chocolat, la ville des Abîmes a fait appel au maître chocolatier Naomi Martineau. Elle a animé un atelier avec une dizaine d'agents de la commune. L'occasion de revenir sur le marché du chocolat local peu développé en Guadeloupe. Le reportage de Jordi Rayap.
Avoir des apprentis sous son aile, Naomi en a l'habitude. C'est donc en véritable professeur des écoles qu'elle animait son atelier afin que chacun des 10 agents de la mairie des Abîmes moule de parfaits lapins au chocolat, local bien sûr. Naomi Martineau, maître chocolatier torréfacteur.
L'idée était pour ces fêtes de Pâques de mettre en avant des petits moulages. Ça a été plutôt facile parce qu'ils sont bien équipés en termes de cuisine, ils ont surtout du froid, c'est la base de notre travail.
Du côté des agents communaux, la satisfaction se lisait sur leur visage. C'était le moment de mettre un visage sur le nom de cette maître chocolatier guadeloupéenne dont la réputation n'est plus à faire.
Je la connais depuis qu'on est toute petite et je sais qu'elle est devenue une grande maître chocolatier, donc j'ai voulu participer à cet atelier.
Elle nous a démontré comment faire des petites choses avec notre chocolat d'ici.
Au cours d'un long échange, ils ont aussi pu comprendre pourquoi la filière chocolat était si peu développée dans notre département, malgré la richesse de celui-ci en cacao.
Il faut savoir qu'on est sur un petit territoire. Donc les entreprises qui sont sur le territoire ne peuvent malheureusement pas absorber tout le monde. Il y a des choses à faire, il faut qu'on le fasse ensemble.
Une filière peu développée parmi tant d'autres qui coûte cher à la jeunesse guadeloupéenne, puisque comme pour bon nombre de secteurs, pour étudier les métiers du chocolat, il faut quitter l'archipel pour la France métropolitaine.
Un sujet signé Jordi Rayapin de Guadeloupe la première et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci Alex Leveillé, merci à tous d'être avec nous. Restez à l'écoute dans un instant de Vive Voix. L'écrivain martiniquais Raphaël Confiant est l'invité de Chantal Laureau. Nous on se retrouve demain 13h10, temps universel. Très bonne journée.
Eh oui, Poporichou et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Ils nous mettent tellement de pression, j'ai des amis que tout. proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, a le plaisir de vous inviter à un symposium sur les projets de recherche SCAPE, pédagogie plurilingue et technologie numérique, pour soutenir l'apprentissage des STEAM, les 25 et 26 avril 2023 à Toronto. Ce symposium de deux jours vise à mettre en lumière la recherche appliquée relative à la pédagogie AMI des langues et aux technologies numériques dans les classes et les écoles élémentaires et secondaires. L'équipe de recherche des projets SCAPE a collaboré avec des enseignants, des élèves, des décideurs, des formateurs d'enseignants et des chercheurs internationaux afin de donner aux élèves multilingues nouvellement arrivés l'occasion de s'épanouir dans leur classe de STEAM et à l'école de manière plus générale tout en se rapprochant de leur famille. Soyez nombreux à participer à ce symposium, cette conférence, pour découvrir quels sont les avantages d'une pédagogie amie des langues et les ressources à votre disposition pour devenir un éducateur sensible à la culture. Le CREFO vous y attend le mardi 25 avril de 10h à 15h30. Et tout se déroulera en français avec interprétation simultanée en anglais. Et le mercredi 26 avril de 10h à 15h30, interprétation en anglais, et oui, simultanée en français. Vous pouvez participer soit en présentiel au Nexus Lounge, 12e étage de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, 252 rue Bloor Ouest, métro Saint-George, ou en ligne, comme vous le voulez, sur Zoom. Vous y retrouverez le lien sur notre site web popourichaud.com. Mardi 25 avril de 10h à 15h30 et mercredi 26 avril de 10h à 15h30, symposium sur les projets de recherche SCAPE. Pédagogie plurilingue, technologie numérique pour soutenir l'apprentissage des STEAM, pour découvrir quels sont les avantages d'une pédagogie amie des langues et les ressources à votre disposition pour devenir un éducateur sensible à la culture. C'était un message du CREFO, Université de Toronto, partenaire de Popourri Chaud.
Pour Pâques, laissez-vous séduire par Lindor. Créé par les maîtres chocolatiers Lindt, avec son cœur passionnément fondant. Fondé de bonheur avec Lindor par les maîtres chocolatiers Lindt.
Et nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui nous appuient dans cette aventure des francophonies depuis plus de 35 ans. Et je vous rappelle l'invitation des Français du monde à l'État à Toronto, qui souligne le 106e anniversaire de la bataille de Vimy. Dimanche prochain, 16 avril, à 10h, au 55, au Cénotaphe de l'ancien hôtel de ville à Toronto, Metro Queen. Plusieurs dignitaires et corps diplomatiques seront présents. La bataille de la crête de Vimy, qui s'est déroulée dans le nord de la France, est considérée comme un fait marquant de l'histoire canadienne. Beaucoup de soldats canadiens étaient de jeunes hommes, à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, unis dans leur lutte pour la justice, la paix et la liberté. De plus, certaines techniques de combat innovatrices mises en pratique à la crête de Vimy allaient contribuer à la victoire finale des Alliés un an et demi plus tard. La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Après 4 jours de combats sanglants, les Canadiens s'étaient rendus maîtres de la crête de Vimy au prix de 10 600 tués et blessés. La bataille est devenue depuis un symbole important pour le Canada. On vous y attend, dimanche prochain, 16 avril, à 10h, au 55, c'est le taf de l'ancien hôtel de ville à Toronto, Metro Queen. Tous les détails sur notre site popourichaud.com. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Chaud et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature.
Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Shabadabada, Shabadabada, le film de Claude Lelouch et Nicole Croisy, hein. Un homme, une femme. Attendez, attendez, vous parlez de quoi? Un homme, une femme? Mais qu'est-ce que c'est que ces mots désuets qui ne veulent plus rien dire? Un homme, une femme? Non! Non, nous sommes dans le progrès, nous sommes en 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Eh bien, pour la première fois en France, alléluia, alléluia, pleure de joie, un couple transgenre donne naissance à un enfant. Un homme transgenre a accouché à la maternité du centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges, accompagné de sa femme qui est née homme. Voilà. Il est né homme, et puis elle est devenue femme, et lui est né femme, est devenu homme. Eh bien voilà, une naissance, c'est la fille de Victoire, une femme transgenre, de Mathéo, un homme transgenre. Ainsi, c'est ce dernier qui a porté la petite fille durant 9 mois, avant de lui donner naissance aux côtés de sa compagne, donc à ce centre. Première grossesse spontanée, sans recours à la procréation, à la PMA, non, non, pas de problème. Simplement, Victoire et Mathéo, ça fait 3 ans de combat qu'ils veulent avoir un enfant. Bon, alors ils ont évidemment échangé des petites choses parce qu'il fallait interrompre leur traitement hormonaux qui leur permettait de répondre à leur identité de genre. Et puis ils ont arrêté les interventions chirurgicales, portée pour Victoire, parce qu'elle souhaitait achever sa transition. Mais alors, attendez, si je comprends bien, mais je ne comprends rien, bien sûr. Cette année, un homme qui veut devenir femme, donc, et une femme qui est en train de devenir homme, les deux, mais qui a enfanté qui? Donc, en fait, si je bien comprends, c'est un homme qui est une femme qui font un enfant. Ah, mais vous n'avez rien compris, Berkov, vous n'avez rien compris.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Le 21 mars à dernier s'est tenu au Collège Massé de l'Université de Toronto la toute première finale torontoise du concours « Ma thèse » en 180 secondes, organisé par l'ACFAS Toronto. La grande gagnante, qui représentera Toronto au concours national très prochainement, et oui, elle était à notre émission spéciale Francophonie le dimanche 19 mars, Diane Cullen, étudiante doctorat, Université York. Le thème de sa présentation redéfinit la place du handicap dans le milieu de la musique vers un système éducatif plus inclusif. Et la deuxième gagnante, votée par le public via YouTube, est Sandhya Milabatula, étudiante doctorat à l'Université de Toronto. Et elle était avec moi dans le studio le 19 mars dernier. D'ailleurs, je vais vous présenter un extrait de leur présentation dans quelques secondes. Toutes nos félicitations à Sandhya et à Diane. Merci aux nombreuses personnes qui ont voté. Et oui, aux plus de 500 personnes qui ont visionné la finale en ligne et sur place. Vous retrouverez le lien sur notre site popourrichaud.com. Et merci à l'ACFAS Toronto de nous avoir inclus comme partenaire dans cette belle aventure. Et voici un extrait de la présentation de Diane et Sandhya.
Notre
première candidate, Diane Colline, étudiante au doctorat en musicologie à l'Université York.
Le titre de sa recherche est « Redéfinir la place du handicap dans le milieu de la musique vers un système éducatif plus inclusif ».
Professionnelle, elle est souvent confrontée aux barrières d'inaccessibilité imposées par notre société. Il en est de même dans le milieu éducatif et particulièrement dans les domaines artistiques. Les musiciens atteints de handicap doivent constamment lutter pour arriver à un niveau d'accessibilité qui leur convient, que ce soit par l'installation de matériel pour accéder à la scène ou par les adaptations proposées au public. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur six est atteinte d'une forme de handicap, c'est-à-dire 15% de notre population mondiale. La Grande-Bretagne, un des pays les plus actifs en termes d'inclusion dans les arts, a effectué plusieurs études qui montrent que, sur une population de 67 millions d'habitants, seulement 7% d'enfants atteints d'un handicap reçoivent une éducation musicale. Le problème, c'est que l'enseignement musical est traditionnel. Il y a un cadre avec des instruments, des livres d'instruction. Et pour dépasser ce cadre, il faut penser au-delà du standard. Il faut des professeurs qui acceptent de changer leur approche. Pour ce faire, il faut aussi changer la manière dont notre société perçoit le handicap. Nous allons donc tenter une expérience. Je vais diviser la salle en deux. Le premier groupe va apprendre à jouer de la guitare avec les pieds. Le second à jouer de la flûte travers avec une seule main. Vous êtes prêts?
Oui.
Bon, d'accord. Gardons cet exercice pour plus tard. Une personne handicapée est une personne avant d'être handicapée. Elle n'est pas définie par son handicap. Si on accepte ce fait, dans l'éducation musicale, il n'y a plus qu'à trouver la manière dont l'enseignement s'adapte à l'étudiant. Dans ma thèse, j'étudie le parcours de musiciens professionnels atteints de handicap qui ont changé le monde de la musique. Soit en faisant voter des lois et appliquer les règles d'admission des étudiants pour que le handicap ne soit plus une excuse de refus, soit par leur présence et leur détermination à faire évoluer l'entreprise musicale. Ce qui manquait à ces musiciens lorsqu'ils étudiaient, c'était quelqu'un qui leur servait de rôle modèle. Grâce à ces entretiens, j'ai imaginé un système éducatif qui permet d'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge un accès aux instruments adaptés pour apprendre à jouer de la musique différemment. Par exemple, en proposant des partenariats avec des facteurs d'instruments adaptés, ou alors en apprentissage du chant intégrant la langue des signes, des partitions en braille, des ateliers de sensibilisation à un usage non traditionnel d'instruments traditionnels. Lorsqu'on propose une multitude d'options à tous les étudiants, il n'y a plus de différence entre un enfant porteur de handicap et un enfant non handicapé. Ma méthode consiste également à sensibiliser les professeurs à la différence. J'ai constaté en animant ce type d'atelier que les professeurs ont moins peur de proposer un enseignement adapté à leurs étudiants, avec ou sans handicap. Et peut-être arriverons-nous ainsi à former aujourd'hui les musiciens qui serviront de rôle modèle aux étudiants de demain.
Merci beaucoup, Diane.
Toujours dans la catégorie doctorat, notre seconde et dernière candidate, Sandhya Mailabatula, étudiante au doctorat en kinésiologie à l'Université de Toronto.
Le titre de sa recherche est « Une exploration des expériences de rétablissement après une commotion cérébrale chez des étudiants universitaires non athlètes d'élite qui subissent l'ordure dans le cadre d'une activité physique ou d'un sport récréatif ».
Je vous invite à fermer vos yeux et imaginez que vous êtes seul dans le grand noir de l'espace. Que vouliez-vous devenir quand vous étiez petit? Moi qui adorais imaginer les aventures, voulais devenir exploratrice dans l'espace. Maintenant, j'attends toujours mon permis de navette spatiale pour visiter les frontières de l'univers. Mais on va explorer une autre sorte de frontière, la dernière frontière du corps, le cerveau. Connaissez-vous une autre situation où vous pouvez se retrouver seul dans le noir? Je parle des commotions cérébrales et que c'est tout un autre type d'aventure. En fait, de rester seul dans une salle sombre a été la recommandation pour récupérer. Mais d'être là pendant des jours a introduit d'autres problèmes de déconditionnement et d'isolement, ce qui peut empirer la situation. De quoi s'agit cette blessure? Le cerveau peut être meurtri et en bois un changement transitoire de fonction qui peut entraîner des symptômes somatiques et psychologiques débilitants, notamment des maux de tête, des étourdissements et de l'anxiété, entre autres. Maintenant, vous pensez possiblement que c'est grave, mais au moins, ça n'arrive qu'aux grands étoiles du sport comme Sidney Crosby. Mais si je vous disais qu'il n'est qu'un point dans une galaxie, en fait, la commotion cérébrale, c'est la blessure du cerveau la plus commune et qu'elle peut arriver à n'importe qui, dans un accident routier, en frappant la tête dans la cuisine, dans les sports ou ailleurs. Alors, quoi faire en cas de commotion cérébrale si c'est votre collègue, votre meilleur ami ou vous-même? Ne vous inquiétez pas, je ne dis pas du tout qu'il faut s'habiller dans un costume d'astronaute pour se protéger de l'environnement. Heureusement, ces jours-ci, la salle sombre est plus ou moins démodée et on sait que commencer des exercices tôt dans le processus de rétablissement peut donner des meilleurs résultats. Mais quels sont les meilleurs exercices? Pour explorer cela, j'ai animé des séances d'exercices avec les étudiants commotionnés. J'ai trouvé que la musculation et l'entraînement cardiovasculaire aident à retourner à la capacité initiale avant la commotion. Mais les exercices physiques ne font pas tout. Travailler l'équilibre et aussi les exercices cognitifs et le mouvement de l'œil sont aussi importants pour retourner aux activités académiques et de vie. La relation entre la fréquence et type d'exercice et l'évolution des symptômes peut m'aider à donner des meilleurs programmes de rétablissement aux étudiants commotionnés pour leur aider à prendre le contrôle de leur vie et continuer à atteindre les étoiles. Quant à moi, quand les gens me demandent ce que je fais ces jours-ci, je dis que je suis une exploratrice du cerveau. L'espace peut m'attendre pour le moment. Merci.
Merci beaucoup, Sandhya. C'est maintenant le moment des délibérations. Les membres du jury vont s'isoler en privé. Et pendant qu'ils se consultent, vous êtes invités à vous dégourdir les jambes et à vous rafraîchir. Nous avons des boissons, des bouchées qui vous attendent ici.
Nous vous revenons dans une trentaine de minutes afin de vous dévoiler les gagnantes et les gagnants de la première finale torontoise, Ma thèse en 180 secondes.
Eh oui, cette première finale torontoise du concours Ma thèse en 180 secondes était un événement historique pour Toronto. Bravo. Une fois de plus, toutes nos félicitations à la grande gagnante, Diane Collin, doctorante en musicologie à l'Université York, qui était à notre émission le 19 mars dernier. Elle veut rendre les études musicales plus accessibles aux personnes handicapées. Et en plus du prix de 400$, Diane représentera l'Ontario français lors de la grande finale nationale le 10 mai prochain à l'Université de Montréal. Et Sandhya Milabatula, doctorante de l'Université de Toronto, remporte le prix du cœur du public. C'était via YouTube. Bravo! Je rappelle que Sandhya a une sœur jumelle. Les deux sont d'origine indienne, parfaitement trilingue. C'est l'avenir même du Canada et de la francophonie. Au plaisir d'accueillir d'autres étudiants des trois campus de l'Université de Toronto. Tous les détails sur notre site popourichaud.com. Et maintenant, je vous invite au voyage à destination Sénégal. Et oui, le 4 avril, nous avons fêté avec les auditeurs d'origine sénégalaise la fête de l'indépendance de ce pays. Et ce mois-ci, c'est la 10e édition du mois du Sénégal au Canada. Du 1er au 13 mai, ayant pour thème l'économie numérique au service de la diaspora. Cet événement a lieu à Montréal tout le long du mois d'avril et répond à un triple défi: contribuer au rayonnement du Sénégal au Canada, renforcer la solidarité entre les membres de la communauté sénégalaise vivant au Canada et favoriser l'intégration de ces derniers dans la grande communauté canadienne. Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site du Regroupement Général des Sénégalais du Canada, c'est sur notre site. Et le Sénégal, je vous rappelle, obtient son indépendance le 18 juin 1960. Au moment de son accession à l'indépendance, le Sénégal, comme la plupart des États africains francophones, a choisi le français comme langue officielle. Les dirigeants politiques ont ainsi privilégié la langue qui leur paraissait la plus immédiatement disponible et opérationnelle, la langue du colonisateur. Née en janvier 1959, la Fédération du Mali, qui regroupait le Sénégal et le Soudan français, l'actuel Mali, fut dissoute en août, minée par les querelles internes. Et oui, Léopold Sédar Senghor, homme d'État français puis sénégalais, poète, écrivain et premier président de la République du Sénégal. Il est ministre en France avant l'indépendance du Sénégal et le premier Africain assiégé à l'Académie française. Il présida aux destinées du Sénégal jusqu'à sa démission en 1980. Il remporta la première élection présidentielle de 1963 et fut réélu régulièrement jusqu'en 1978. Bien qu'il ait transformé le Sénégal multipartite de premières années en un État parti unique, Senghor fut toujours considéré comme ayant un régime tolérant et démocratique. Lorsqu'il démissionna en 1980, il devenait le premier dirigeant de l'Afrique moderne à prendre sa retraite de son propre chef. Soyez les nôtres chaque dimanche pour découvrir l'une des nombreuses facettes du Sénégal, aussi connu comme le pays de la Teranga. Mille merci pour vos nombreux messages sur l'avenir de la langue française. Eh oui, le vautour. Plusieurs parents francophones de la grande région de Toronto et aussi d'Ottawa nous écrivent et ils trouvent dommage que leurs enfants parlent anglais dans les cours d'école des conseils scolaires francophones. Allez, continuez à nous écrire popourri@cut.fm. Et autre petite nouvelle, la comédie musicale et Luc Plamondon sont aux étoiles en ce moment et en nomination pour un prix prestigieux en France. Bientôt, on en parle la semaine prochaine. Et ça se bouscule pour la course à la mairie de Toronto. Tout le monde veut être maire de Toronto. Eh oui, selon vous, qui sont les candidats, candidates favorables à la francophonie? Allez, j'attends vos réactions. Merci à DJ Devera, Emmanuel Kerat de la librairie francophone, France Inter, toute l'équipe de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, la grande équipe de l'ACFAS Toronto. Je vous souhaite un très bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous. Je vous laisse avec un petit cadeau pour la fête de Pâques, Toumani Diabaté, grand musicien malien qui interprète avec son groupe le Symmetric Orchestra, le titre Toumani. Magnifique concert, gracieuseté de Radio France Internationale. Allez, continuez à nous soutenir. Devenez membre aujourd'hui même ou partenaire de notre émission, la seule et unique émission en langue française sur CUT 89,5 FM, Toronto. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao, ciao.
Alabarika, Mariamu Fuati, Dinka, Alabarika, Payne Dinka.